Henri IV, dernier amour, dernier combat. La dernière guerre qu'Henri IV préparait a-t-elle été causée par sa dernière passion? Une jeune adolescente d'à peine 15 ans qui lui écrit des lettres enflammées? On l'a prétendu. On en est presque sûr même, pour ne pas dire tout à fait sûr. Vendredi 16 janvier 1609. Henri IV vient d'entrer dans un petit théâtre où on répète un ballet qui doit être donné à la salle de l'Arsenal et chez la reine Margot. Soudain, devant lui, sur la scène, une apparition. Charlotte. Charlotte de Montmorency, elle n'a pas 15 ans. Elle est belle comme le jour, plus belle que le jour. Fragile et délicieuse, presque nue dans sa robe de mousseline et de gaze. Marie et Margot ont invité leur mari Henri à cette répétition peuplée de jouvencelles. Henri a 56 ans et plus toutes ses dents. En effet, on a retrouvé dans ses comptes de santé des sommes importantes pour les plomber ou les remplacer par des quenottes en or. Il souffre de gouttes, de séquelles de maladies vénériennes, mais dès qu'un jupon passe, son cœur de béarnais bon vivant bat la chamade.
Les distractions de la grosse banquière. La reine Marie de Médicis, qu'Henri a épousée en 1600, parce qu'il avait besoin d'argent et que son futur beau-père assortissait l'épousée d'une belle dot, aime organiser des spectacles. Elle a besoin de se distraire, Marie. Au Louvre, elle s'ennuie et doit supporter les moqueries, l'ironie d'Henriette d'Entragues, la maîtresse du roi, qui la traite de grosse banquière. De plus, chaque fois que Marie donne naissance à un enfant, Henriette, la maîtresse, en fait autant. Un ou deux mois après ou avant. Précision au passage qu'Henri aura 16 enfants de 5 femmes différentes, sans compter les nombreux autres égarés dans la nature. À propos, si vous remontiez votre arbre généalogique, on ne sait jamais.
Charlotte. Au cours de la répétition, elle pointe vers le cœur d'Henri une flèche dorée symbolisant l'amour. Elle joue une nymphe dans le ballet « Les nymphes de Diane ». Ah ! Henri demeure cloué sur place. À cette beauté, ce raffinement, cette taille, cette fraîcheur, cette quasi-nudité aussi. Le voilà encore amoureux fou, plus fou que jamais. Déjà promise à François de Bassompierre, Charlotte doit rompre ses fiançailles. Henri veut la marier à un homme qui acceptera de jouer les maris fictifs. Henri II de Condé, qui passe pour impuissant. Mais Condé est vexé du rôle qu'on veut lui faire endosser. Il demande au roi de ne pas donner suite à son projet. Trop amoureux, Henri n'en fait qu'à sa tête. Et bientôt, Charlotte épouse Henri de Condé le 17 mai 1609. Mais le nouveau mari va mener bonne garde auprès de sa femme. Le roi en est tout penaud. Il ne peut approcher de celle qu'il aime à en perdre la raison, ni même lui parler. Il entame avec elle une correspondance enflammée. Elle commence ses missives par
« Astre que j'adore ».
Il lui répond « Aimez-moi, croyez-moi à vous ». Mais Condé, malgré l'insistance du roi, refuse de laisser Charlotte en sa compagnie. Il décide même, pour protéger sa jeune épouse, de fuir aux Pays-Bas. Les Pays-Bas, pays de la catholicité espagnole. Charlotte s'y ennuie. Henri l'apprend. Il s'allie alors au prince allemand. Objectif, attaquer les Pays-Bas, toujours susceptibles d'abriter des comploteurs contre le royaume de France, puis démanteler l'empire des Habsbourg, mais surtout, aller récupérer la belle Charlotte. L'entrée en guerre est fixée au 16 mai 1610. Le 13 mai, Marie de Médicis est couronnée reine, ainsi qu'elle le souhaitait depuis son mariage en 1600. Et le 14 mai... Le 14 mai 1610, Sully demeure allongé sur son lit. Depuis quelques jours, il est malade. Henri IV veut aller lui rendre visite. Comme Sully habite à l'Arsenal, tout près de la Bastille, il faut traverser une partie de la capitale. le roi hésite à sortir. Oui, depuis quelques jours, il est habité d'un sombre pressentiment. Pourtant, il a déjà été victime de 15 tentatives d'attentat. Toutes ont échoué, notamment celle d'un fou qui se présentait descendant du roi légendaire Pharamond et qui s'était élancé sur le roi, un poignard à la main, en criant « Rends-moi mon royaume ! Rends-moi mon royaume !» Henri avait demandé qu'il soit épargné et interné dans un asile. Ce 14 mai, Henri n'est pas tranquille. À Marie de Médicis, la toute nouvelle reine de la veille, il demande sans cesse « Mamie, irai-je ? N'irai-je pas ?» Il va. Mais avant de monter dans le carrosse, il trace sur sa poitrine un grand signe de croix, geste qu'on ne lui voit jamais faire. Puis le carrosse ouvert, tant il fait chaud ce jour de mai, s'engage dans la rue Saint-Honoré. Il faut prendre ensuite la rue de la Ferronnerie. Une charrette de foin l'encombre, au niveau de l'actuel numéro 11. Les valets descendent du carrosse pour la faire dégager. Alors, une ombre surgit de la foule bruyante et des encombrements. C'est un homme à la barbe rousse et aux cheveux dorés. Il grimpe sur une borne, puis s'agrippe à l'une des roues du carrosse, sort un long poignard dont il frappe avec violence et par deux fois le roi Henri. Le premier coup a glissé sur une côte, le second est entré entre la cinquième et la sixième côte, a perforé le poumon et tranché l'aorte. Henri s'écrie
« Je suis blessé !»
Il perd connaissance. Le carrosse fait demi-tour, fonce vers le Louvre. Il s'arrête dans la cour sud-ouest de la cour carrée. On veut en descendre le roi. Il a cessé de vivre. Son assassin s'appelle François Ravaillac. Né à Angoulême, il a 32 ans. Il a exercé plusieurs métiers, dont celui de maître d'école. C'est un catholique exalté, déséquilibré, qui a, selon un chroniqueur de l'époque, l'esprit embrumé. Condamné à mort, il subit le supplice des régicides. On le torture à la tenaille. Sur ses plaies, on verse du plomb fondu et de l'huile bouillante. Ensuite, on imprègne sa main droite de soufre, puis on la brûle. Enfin, il est écartelé en place de grève, aujourd'hui place de l'Hôtel de Ville. Malgré toutes les suppositions de complicité, l'Espagne, les Ligueurs, Condé, Henriette d'Entragues, qui n'avait jamais admis de n'être point reine alors que le roi le lui avait promis, il semble que Ravaillac ait agi seul, dans un contexte où l'exacerbation de la question religieuse pouvait conduire n'importe qui à n'importe quelle folie.